France Culture, il est midi et demi. Le journal avec Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Coup d'envoi depuis ce matin des épreuves du bac, nouvelle formule. Les élèves de première planche sur l'histoire géo, les langues et les maths pour la filière technologique. Mais pas partout, sur fond d'appel au boycott. Nous ferons le point au début de ce journal avec Hakim Kasmi.
Une nette amélioration sur le front des transports en cette 47e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. En parallèle, les opposants cherchent de nouveaux modes d'action plus ciblés et parfois plus violents. La CFDT va porter plainte contre l'intrusion de son siège vendredi dernier.
Et puis 200 patrons français et étrangers attendus cet après-midi au château de Versailles pour la troisième édition de Choose France, choisissez la France. Objectif, vanter les mérites de notre pays. Nous verrons ce que sont devenus les investissements annoncés il y a 2 ans.
Dans votre journal également, Anne-Laure Jumet, quel avenir pour le RUA, le revenu universel d'activité? Et le gouvernement publie ce matin les résultats de la concertation citoyenne.
Oui, et nous serons nous aurons un invité dans ce journal pour en parler, Nicolas Duvoux, professeur de sociologie à Paris 8 et spécialiste des questions de pauvreté. Dans cette édition également, nous partirons en Chine où un mystérieux virus déclenchant des pneumonies a fait un 3e mort. L'épidémie se propage vers le nord et le sud du pays et a gagné la Corée du Sud. Nous appellerons notre correspondante à Pékin, Dominique André. Et puis à la fin de ce journal, Olivier Gisbert, nous vous retrouverons pour la Grande Table des Idées.
Avec le philosophe Alain Badiou qui publie Trump ou la disparition du politique. Nous en parlerons avec notre invité dans une vingtaine de minutes. Alors que s'ouvre cette semaine à Washington le procès en destitution du président américain.
La réforme du bac à l'épreuve des faits. Depuis ce matin, les élèves de première planche sur les premières épreuves de contrôle continu du nouveau bac dans les 4500 lycées publics et privés. Des épreuves d'histoire géo, de langue vivante et de mathématiques pour les élèves de la voie technologique qui comptent pour 30% de la note finale. Alors 12 syndicats, soit la quasi-totalité des organisations, avaient demandé au ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer de renoncer à cette première session, dénonçant des épreuves mal préparées, mais ils n'ont pas été entendus. Dans certains établissements, des appels au boycott ont donc été lancés. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Anne-Laure Jumet.
Alors, quel est l'état des perturbations à la mi-journée?
Alors concrètement, selon un recensement du ministère de ce matin, 24 lycées ont fait l'objet d'une action. Dans le détail, 7 lycées étaient bloqués. Dans 5 établissements, les épreuves ont dû carrément être reportées à une date ultérieure, comme à Montauban, à Lyon ou encore en Normandie. Mais c'est surtout dans l'académie de Créteil que les tensions étaient les plus importantes, et ce, dans les 3 départements de l'académie. Le ministère a donné des mesures de fermeté dans les lycées qui étaient bloqués, n'hésitant pas, dans certains cas même, à envoyer ses équipes mobiles de sécurité. Une situation prévisible selon Rodrigo Arena, coprésident de la FCPE, Fédération de parents d'élèves, qui demandait depuis des semaines le report des épreuves.
Quand on dit que l'école est faite pour les enfants, il faut tenir compte de ces réalités de terrain pour que les enfants puissent passer des épreuves de contrôle continu, qui est devenu un examen et non plus un contrôle continu, de façon bienveillante et en faire en sorte qu'ils puissent les réussir. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des livres qui n'ont pas été livrés à temps, qu'il y a eu des problèmes dans les banques de données, qu'il y a un mouvement social qui est très important dans l'éducation nationale et qu'aujourd'hui, les élèves ne sont pas en mesure, selon les lycées et selon les territoires, d'être dans les meilleures conditions pour passer un examen. Donc, il est raisonnable, il est tout à fait entendable que ces épreuves, non pas de les boycotter, mais de voir les reporter, est une décision de bon sens et de responsabilité.
En attendant, au-delà des actions, il est pour l'instant bien difficile d'évaluer la mobilisation. En effet, les épreuves des E3C doivent se dérouler sur plusieurs semaines, du 20 janvier au 28 février. Il n'y a pas de date unique au niveau national, comme cela est habituellement le cas pour le baccalauréat. Du coup, sur les 4500 lycées publics et privés, beaucoup d'entre eux n'ont pas encore passé les épreuves.
Merci Hakim Kasmi. Ajoutons que Jean-Michel Blanquer a annoncé hier des poursuites pour ceux qui ont provoqué l'annulation des épreuves du bac samedi matin au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Le proviseur avait dû annuler l'examen en raison de la présence de manifestants dans l'établissement. Un trafic normal pour les TGV, quasi normal pour les TER, 8 trains sur 10 sur le réseau transilien et un fonctionnement normal pour le réseau de bus parisien, les RER A et B et 11 lignes de métro sur 16. Cette 47e journée de mobilisation contre la réforme des retraites marque une amélioration sur le front des transports. L'UNSA RATP, premier syndicat au sein de la régie des transports parisiens, a suspendu son mouvement de grève illimité. Suspension qui ne veut pas dire toutefois fin de la mobilisation puisque le syndicat donne rendez-vous à ses membres le 24 janvier. janvier, jour de présentation du texte et nouvelle journée de mobilisation. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Anne-Laure Jumet.
Alors plus largement, les opposants à la réforme tentent de nouveaux modes d'action plus ciblés et parfois plus musclés.
Oui, on l'a vu déjà la semaine dernière à Paris, des militants se sont introduits au siège de la CFDT. Quelques heures plus tard, d'autres se sont rassemblés devant le théâtre parisien des Bouffes du Nord, où Emmanuel Macron assistait à une pièce de théâtre. Le lendemain, c'était la brasserie La Rotonde, prisée par le président, qui a été la cible d'un incendie volontaire dans le quartier Montparnasse. Il y a eu également d'autres intrusions dans des réunions publiques où intervenaient des membres du gouvernement qui sont en campagne municipale. Marlène Schiappa, par exemple, qui était candidate dans le 14e, ou encore Jean-Baptiste Djebbari, venu soutenir Benjamin Griveaux. Ce matin même, ce sont des actions qui sont menées aux abords de Versailles, où se déroule le sommet Choose France avec quelques 200 patrons étrangers. Des actions, il y en a également un peu partout en France, des marches aux flambeaux, des démissions collectives de médecins à l'hôpital, des avocats qui perturbent les audiences, jettent leur robe noire. Ce mercredi, ce sont tous les fonctionnaires et agents de tous les secteurs de la fonction publique qui sont appelés à déposer leur outil de travail devant les lieux symboliques. Si le mode de mobilisation traditionnelle, manifestation et grève est en train de refluer. En effet, le mécontentement est vif et la colère s'exprime à travers des actions ciblées et spontanées. Des actions sur lesquelles les syndicats ont perdu la main. Ils sont clairement dépassés par leur base. Le mouvement social aujourd'hui est en pleine mutation. Se mêlent gilets jaunes, militants d'ONG, de groupes politiques, militants syndiqués, non syndiqués. Alors sommes-nous dans un climat insurrectionnel ? C'est en tout cas le risque qu'a pris le gouvernement en laissant pourrir la grève et en sous-estimant le rôle des syndicats qui, entre autres, avaient celui de canaliser la colère.
Merci Annabelle Grelier. La CFDT annonce par ailleurs ce matin qu'elle va déposer plainte après l'intrusion dans son siège parisien, c'était vendredi dernier, estimant qu'il y a eu violence, insultes et intimidation auprès de salariés, l'un étant frappé d'une incapacité de travail. Encore deux informations liées à la mobilisation. L'impact de la grève sur l'économie sera limité, estime ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui évalue à 0,1 point de croissance cet impact sur un trimestre. Et puis la SNCF va proposer à partir de jeudi 5 millions de billets à moins de 35 euros sur les TGV Inouï et Ouigo pour des voyages entre maintenant et la mi-avril. Une politique de petit prix pour faire revenir les clients vers le train après un mois et demi de grève. Eux poursuivent aussi leur mobilisation. Les internes sont appelés à faire grève aujourd'hui, choisissant à dessein ce jour du Blue Monday, censé être le jour le plus déprimant de l'année. Des mobilisations locales sont également organisées. Ils réclament un investissement conséquent dans l'hôpital public, la création d'un fonds de formation ou encore la prise en compte de leur temps de travail. La vidéo a tourné tout le week-end sur les réseaux sociaux, celle d'un policier frappant un manifestant couché sur le ventre et menotté en marge de la manifestation des Gilets jaunes samedi à Paris. Hier, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, enquête confiée à l'IGPN. Une enquête administrative sera par ailleurs conduite sous l'égide de la préfecture de police. Des investigations annoncées moins de 24 heures après les faits et qui interviennent leur a dû lieu peu de temps après les déclarations d'Emmanuel Macron. Après d'autres violences commises par des policiers, le chef de l'État avait appelé la semaine dernière à ce qu'il n'y ait plus aucune complaisance.
Oui, exactement. Emmanuel Macron, en déplacement à Pau mardi dernier, avait parlé de comportements inacceptables. Et ce, au lendemain des vœux de Christophe Castaner à la police nationale. Le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'on ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser et à abaisser la police. L'exécutif change donc de ton, mais joue quand même à l'équilibriste. Il s'agit de reconnaître la violence de certains policiers sans stigmatiser l'ensemble des forces de l'ordre. Depuis le 9 janvier, ce sont déjà trois enquêtes judiciaires qui ont été ouvertes à l'encontre de policiers. Il y a d'abord eu le croche-patte fait à une manifestante à Toulouse qui s'était retrouvée projetée à terre. Le parquet a ouvert une enquête pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique. Et le même jour apparaît une vidéo montrant un tir de LBD à bout portant. Là aussi, une enquête a été ouverte. Pour autant, l'exécutif refuse d'employer le terme de violence policière. Écoutez par exemple la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, ce matin sur France Inter.
Je sais qu'il y a là une grande différence d'interprétation, mais pour moi, des violences policières caractérisent, je veux dire, une volonté de l'État qui est sciemment pensée. Je crois que nous ne sommes pas là du tout dans ce cadre-là. C'est pourquoi je pense qu'il y a réellement des faits individuels qui ne sont pas acceptables et qui doivent comme tels être sanctionnés. C'est cela qui renforce la crédibilité de nos forces de l'ordre. Mais je ne parlerai pas d'un état de violence policière.
Et à propos donc de cette vidéo qui montre un policier en train de frapper ce manifestant au sol, vidéo sortie de son contexte selon le syndicat Alliance, on apprend ce matin qu'il dépose plainte avec deux autres policiers contre ce manifestant pour violence volontaire. Il l'accuse notamment d'avoir empêché violemment une autre interpellation.
Et hier, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, a réclamé le départ départ du préfet de police de Paris, Didier Lallement, responsable selon elle par ses choix en matière de maintien de l'ordre, de l'aggravation des tensions et des violences. 12h40 sur France Culture, ils font un arrêt à Versailles sur la route du Forum économique de Davos. Près de 200 patrons français et étrangers sont attendus cet après-midi sous les ors du château de Versailles. On retrouvera notamment les PDG de BMW, General Electric, Mittal, YouTube ou encore Netflix. Objectif, leur vanter les avantages de la France pour implanter de nouvelles activités et créer des emplois. Emmanuel Macron et plusieurs ministres seront présents à cet événement baptisé Choose France, choisissez la France, qui en est à sa troisième édition. Alors comme chaque année, c'est l'occasion d'annoncer des investissements sur notre territoire. Ces derniers représenteront 8 milliards d'euros cette année, a annoncé ce matin Bruno Le Maire. Parmi les projets déjà annoncés, cette méga commande passée par le croisiériste MSC au chantier de l'Atlantique pour un montant de 2 milliards d'euros, ce qui représente plus de 2000 emplois pour le seul site de Saint-Nazaire. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors, il est toujours intéressant de faire le bilan des investissements passés. Que sont devenus ceux annoncés lors de la première édition de Choose France?
Eh bien, à l'issue du premier de Choose France, l'Elysée avait annoncé 3,5 milliards d'investissements sur 5 ans, soit, je cite le communiqué de l'époque, 2200 emplois potentiellement créés sur les 5 prochaines années. Alors, combien l'ont été à ce jour? Eh bien, l'Elysée préfère ne pas communiquer là-dessus et suggère plutôt d'appeler chaque entreprise pour faire les comptes. La difficulté, explique-t-on, c'est que les données qui remontent de Business France, l'agence d'État chargée de faire la promotion de la France auprès des entreprises et investisseurs étrangers, ne font pas la différence entre les annonces faites lors de ce sommet à Versailles et les décisions d'investissement qui avaient déjà été prises ou l'ont été plus tard. Impossible donc de mesurer l'impact spécifique de Choose France sur la création d'emplois. Ce qui est sûr, c'est que les entreprises à capitaux étrangers embauchent 2 millions de personnes sur toute la France et qu'elles contribuent à créer ou maintenir des emplois. En 2018, 30 000 emplois ont été créés ou maintenus grâce à des entreprises étrangères, selon Business France, un chiffre qui ne tient cependant pas compte des destructions d'emplois. Pour prendre un exemple, les centaines de licenciements opérés par General Electric en Isère en 2018, donc année du premier Choose France, ne sont pas retirés de ce chiffre de 30 000. Autre élément clé des discussions qui se tiendront cet après-midi à huis clos entre le gouvernement et les patrons d'entreprises étrangères, les aides et subventions nationales, régionales, ainsi que les niches fiscales à leur disposition. Le crédit d'impôt recherche est le plus attractif au monde. Il représente des moindres rentrées fiscales de l'ordre de 6 milliards d'euros. Nul doute donc que tout cela pèse dans la décision d'investir ou ci ou là. Mais cela ne fait sans doute pas l'objet de communication publique, en tout cas pas à l'occasion de ce sommet.
Et d'après le ministère de l'économie, les décisions d'investissement ont augmenté de 20% sur les 3 premiers mois de l'année. Preuve selon Bercy que la France garde son attractivité malgré les mouvements sociaux. RUA, trois lettres pour une réforme qui doit entrer en vigueur en 2023. Le revenu universel d'activité doit fusionner plusieurs prestations sociales, allocations logement ou encore RSA. Et le gouvernement publie ce matin les résultats de la concertation citoyenne qui a eu lieu en ligne et lors d'ateliers dans 6 villes de France. Invité de ce journal pour en parler, Nicolas Duvoux, professeur de sociologie à Paris 8 et spécialiste des questions de pauvreté. Bonjour.
Bonjour.
Et à vos côtés, Catherine Pétillon pour vous interroger. Alors, premier renseignement, un consensus se dégage pour ouvrir ce RUA aux moins de 25 ans. Ça tombe bien, non? C'est l'un des grands enjeux de ce revenu universel d'activité.
Oui, en tout cas, c'est un des grands trous dans la raquette du système des minima sociaux, puisque les moins de 25 ans sont aujourd'hui la seule, on va dire, partie de la population qui n'a pas accès à une prestation de droit commun. Et donc ça, c'est évidemment un très grand enjeu sur lequel il y avait une mobilisation associative et au-delà. Et c'est un enjeu qui est d'autant plus important qu'il fait ressortir la question, en fait, de l'individualisation ou de la familialisation de ces prestations, puisque, en fait, la justification du non-accès des jeunes à des prestations sociales, c'est le fait qu'elles sont bénéficiaires d'une solidarité dérivée de la part de leurs parents. Et donc, à travers cette question des jeunes, se pose le critère sur lequel on accorde ces prestations.
Peut-être pour préciser de quoi on parle, individualisation ou familialisation, ça veut dire quel revenu on prend en compte, ceux de la famille ou d'une personne?
Voilà, c'est ça. On a plusieurs choix possibles. Hein, et donc, il y a du pour et du contre dans chacune des options. Individualisation, ça veut dire qu'on va retenir les revenus de la personne en tant que telle, tandis que familialisation, on va intégrer soit ceux du couple, soit éventuellement ceux des ascendants dans le calcul des prestations.
Alors, c'est aussi une réforme qui va concerner au-delà des jeunes beaucoup de gens, puisque elle prévoit de fusionner un certain nombre de prestations sociales, même si on ne sait pas encore complètement clairement lesquelles, les aides au logement, le minimum vieillesse, les allocations adultes handicapés, avec une question qui est finalement quelle prise en compte des spécificités des situations de chacun.
Oui, alors ça c'est vraiment un enjeu. Encore une fois, on n'a pas une vision précise du périmètre définitif de ce revenu, parce que notamment il y a la question des personnes handicapées et de l'allocation adultes handicapés, sur lequel évidemment il y a des spécificités majeures. Est-ce qu'elles sont prises en compte? Mais de la même manière pour les autres composantes comme le logement, les aides au logement, eh bien on peut dire ce sont des aides qui ont leur logique propre et qui ne sont pas elles des logiques forcément de lutte contre la pauvreté. Donc comment est-ce que une même prestation va intégrer ou pas cet ensemble de composantes qui font le maillage aujourd'hui des minima sociaux?
Parce que justement il y a une forme dans les motifs avancés et qui sont consensuels, il y a ceux de davantage de lisibilité, moins de non-recours, tout le monde est d'accord pour ça, mais ça veut dire qu'il y aurait des conséquences politiques autres, éventuellement des perdants, des gagnants.
Oui, alors il y a toujours, surtout quand on raisonne à moyen constant et qu'on réforme un ensemble d'éléments de la protection sociale, il y a toujours des gagnants et des perdants. Et là, il est tout à fait évident que derrière les enjeux techniques de lisibilité, de simplification ou alors de lutte contre le non-recours, qui sont des choses très très consensuelles, ben il y a comment est-ce qu'on oriente les prestations. Est-ce que c'est plus vers ceux qui travaillent à travers la prime d'activité? Est-ce que c'est vers des populations qui ne travaillent pas mais qui ont des caractéristiques particulières, les handicapés, les personnes âgées? Bref, il y a tout un ensemble de choix sur les publics qui peuvent ou qui doivent bénéficier de ces prestations.
Alors Nicolas Divoux, dans ce cadre-là, un des sujets qui est aussi mis au débat, et on le voit dans cette concertation, c'est la question d'éventuelles contreparties. Est-ce qu'il faut associer des droits et des devoirs à cette future allocation?
Oui, alors ça, cette question des contreparties, c'est vraiment le serpent de mer des débats sur les prestations sociales, puisqu'il y a toujours l'idée qu'il faut mettre du devoir en face du droit et qu'on va chercher à réformer les prestations dans ce sens-là. D'ailleurs, le nom même revenu universel d'activité inclut en quelque sorte cette question de la contrepartie, puisqu'on a des prestations comme les aides au logement qui ne reposent pas sur des critères d'activité, et on va chercher à les lier éventuellement avec des comportements en lien avec notamment le travail. Alors là, ce qu'on sait de la concertation montre quand même qu'il y a une discussion sur cette question. Il n'y a pas forcément de consensus pour appliquer des contreparties de manière, en tout cas pas punitive, aux personnes. Donc je crois qu'il y a un point de relatif consensus, c'est que les formes d'accompagnement sont souhaitables, mais que si elles se traduisent par de la pression ou de la culpabilisation pour des personnes qui ne peuvent pas retrouver d'emploi, là, il y a quelque chose qu'il faut éviter.
Surtout si ça ne touche plus que des questions de travailleurs, mais aussi les personnes âgées, les handicapés.
Oui, absolument, parce que là, on amalgame, encore une fois, dans une prestation qui porte dans son nom le vocable d'activité, tout un ensemble de populations pour qui la question de l'activité salariée, notamment, de fait, n'est pas pertinente.
Alors, Nicolas Divoux, une des questions aussi qui est dans ce projet de loi qui est prévu pour l'an prochain avec une mise en place d'ici 2023, donc ça paraît loin, mais finalement, cette réforme s'articule avec d'autres réformes en cours actuellement et un changement peut-être plus vaste de nos politiques sociales.
Oui, il y a, en tout cas, ce quinquennat est marqué par une très très forte réforme d'un ensemble d'éléments de la protection sociale. Celui qui est en interaction la plus évidente avec le revenu universel d'activité, c'est la réforme de l'indemnisation du chômage qui va finir d'entrer en vigueur au 1er avril 2020. Parce que là, effectivement, la restriction ou le durcissement des conditions d'indemnisation va sans doute conduire une partie des chômeurs qui auraient pu être indemnisés selon les anciennes règles à basculer dans le système des minima sociaux et donc de se voir appliquer ces contreparties dont on parlait si elles étaient finalement retenues. Donc les enjeux en réalité concernent des pans bien plus larges du système de protection sociale et vont définir la place que les citoyens vont pouvoir y trouver dans les années à venir.
Et pour finir, Nicolas Divoux, ça veut dire que finalement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de la mise en œuvre possible avec cette question budgétaire, car cette question est renvoyée à dans quelques mois.
Elle est renvoyée à dans quelques mois. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que si on veut lutter contre le non-recours, si on veut faire rentrer les jeunes dans la prestation alors qu'ils n'y sont pas aujourd'hui et qu'on ne veut pas faire de perdants, parce que là on parle de personnes qui sont tout en bas de la distribution des revenus, les personnes les plus pauvres de la France au RSA, la réforme, c'est difficile de l'imaginer à moyen constant. Il faudra mettre de l'argent supplémentaire pour que la réforme ait du sens.
Merci beaucoup Nicolas Divoux, professeur de sociologie à Paris 8. Merci aussi à Catherine Pétillon avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. Après un week-end de violence au Liban, une réunion de sécurité se tient aujourd'hui à Beyrouth. Les manifestants réclament un gouvernement indépendant de l'actuelle classe dirigeante, la fin du chômage, une amélioration des services publics ou encore la fin de la corruption. Les différentes personnalités politiques du pays doivent-elles toujours s'entendre sur un nouveau gouvernement qui n'a pas encore vu le jour? À Beyrouth, la correspondance de Clotilde Bigot.
Un week-end de violence comme Beyrouth n'en a jamais connu depuis le début de la contestation, avec plus de 500 blessés dans les rangs des manifestants. Ces affrontements font encore monter la colère du peuple face à l'armée d'abord déployée aux côtés des brigades anti-émeutes et face au pouvoir politique qui n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur la formation d'un nouveau gouvernement capable de sortir le pays de la crise. Les manifestants sont fermes. Tant que la classe politique ne prend pas ses responsabilités, les violences, elles, continueront. Ce gouvernement que les Libanais attendent depuis 2 mois pourrait être dévoilé dans les prochains jours. Pour l'instant, le Premier ministre désigné Hassan Diab reste intransigeant et le prochain cabinet sera donc formé de 18 ministres non issus de la classe politique. Autre rendez-vous qui se tient en ce moment au palais présidentiel, une réunion sécuritaire convoquée par le président Michel Aoun. Sont présents les ministres sortants de la Défense et de l'Intérieur, mais aussi de hauts gradés des forces de police et de l'armée. Le premier ministre sortant, Saad Hariri, a lui refusé de se rendre à la réunion, dont l'objectif est de discuter des développements sur le plan sécuritaire et des mesures à prendre pour préserver la stabilité et le calme du pays.
Clotilde Bigot à Beyrouth pour France Culture. C'est un virus qui se propage à vitesse grand V. Une épidémie de pneumonie apparue en décembre sur un marché du centre de la Chine et qui touche désormais le Japon, la Thaïlande et la Corée du Sud. Bilan 205 cas, dont 201 en Chine où une troisième personne a trouvé la mort. Reportage de notre correspondante à Pékin, Dominique André.
Ce matin, en faisant leurs courses, les familles parlent du nouveau virus mystérieux apparu à Wuhan sur un marché qui vend des serpents, des hérissons, des rats, des bambous, un mets culinaire très prisé et des fruits de mer. Le traumatisme du SRAS de 2002 revient dans les esprits. Le problème, c'est que personne ne sait comment la mystérieuse pneumonie se transmet. Madame Su garde son petit-fils de 2 ans. La famille a pris des mesures radicales.
Je suis au courant. Ce matin, ma fille m'a parlé de cette pneumonie. Elle m'a dit qu'on n'achètera plus de fruits de mer au marché. On n'en mange plus. On n'envoie pas le petit à l'école. Je ne sais pas s'il y a 1 ou 2 patients à Pékin, je ne suis pas au courant. Bien sûr que j'ai une grande inquiétude, heureusement que je n'ai pas de famille dans le sud de Pékin. Je vais essayer de sortir le moins possible. Bien sûr que je ne veux pas attraper cette maladie.
À 4 jours du nouvel an lunaire, plusieurs centaines de millions de Chinois doivent voyager, mais Madame Song a décidé de ne pas bouger.
Pendant le nouvel an chinois, je verrai moins les gens de ma famille, je ne prendrai ni le train ni l'avion. J'ai décidé de rester à Pékin et je n'irai pas comme d'habitude à la foire traditionnelle pour accueillir la nouvelle année. Oh là là, je me rappelle la période du SRAS, le virus s'était étendu à plusieurs provinces du pays.
Quelle est l'étendue de l'épidémie? C'est la question que se posent aujourd'hui les Chinois.
Dominique André à Pékin pour France Culture et on l'apprend ce matin, le président Xi Jinping vient de sonner la mobilisation pour enrayer la propagation de cette épidémie, information de la télévision nationale. Qui sera candidat à la présidentielle en Bolivie, en lieu et place d'Evo Morales? L'ancien président démissionnaire, après une victoire controversée, ne peut pas se porter candidat à la prochaine élection. Ainsi en a décidé le tribunal suprême électoral. Evo Morales s'est réuni ce week-end avec des cadres de son parti à Buenos Aires, où il est en exil depuis 1 mois. Et il a dévoilé les noms des candidats à la présidence et à la vice-présidence, qui se présenteront donc sous les couleurs de son parti. Les explications de Caroline Vic, notre correspondante à Buenos Aires.
Pendant 2 jours, les fonctionnaires du parti MAS ont débattu et ont dû trancher entre 4 précandidats. Finalement, c'est l'ancien ministre de l'économie, Evo Morales, qui a été choisi comme candidat à la présidentielle, Luis Arce. Cet économiste et professeur universitaire de 56 ans est donc un proche de l'ex-chef de l'État et l'homme qui a permis ce que beaucoup appellent le miracle bolivien, c'est-à-dire une incroyable croissance faisant augmenter en un peu plus de 10 ans le PBI de 343%. Selon les chiffres de la Banque mondiale. À ses côtés, comme vice-président, David Choquehuanca, un indigène aymara, ex-leader syndical et ministre des Affaires étrangères de Morales pendant 11 ans. Pour les fonctionnaires du MAS, ce ticket présidentiel garantit donc l'économie nationale avec Luis Arce, ainsi que l'union du mouvement indigène avec Choquehuanca. L'alliance des villes et des campagnes, selon Evo Morales, qui a déclaré lors d'une conférence de presse qu'ils allaient récupérer la démocratie le 3 mai, avant de crier « Ne m'abandonnez pas ». Le président démissionnaire lancera officiellement la campagne présidentielle mercredi prochain dans un stade de la capitale argentine où des milliers de Boliviens sont attendus.
Et l'élection présidentielle en Bolivie aura lieu le 3 mai prochain. Un mot pour finir du temps pour aujourd'hui. Des éclaircies se développeront sur la plus grande partie du pays cet après-midi, mais un vent de nord-est amènera des températures assez fraîches sur le nord-est et le centre-est. Grisaille attendue en revanche sur le pourtour méditerranéen. Le département des Pyrénées-Orientales a été placé en alerte orange. Neige, verglas, de fortes chutes de neige sont attendues en début de soirée. Ce journal a été réalisé par Brice Garcia. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 18h sur France Culture avec Aurélie Kiffer.